VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 2 septembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
En Centrafrique, on déplore au moins 2 morts dans des combats entre groupes armés.
En République démocratique du Congo, entretien aujourd'hui à Kinshasa entre le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président Félix Tshisekedi.
Au Burkina Faso, c'est aujourd'hui que doit tomber le verdict au procès du putsch manqué de 2015.
L'ouragan Dorian frappe les Bahamas de plein fouet et menace les régions côtières des États-Unis.
Le bilan de la fusillade de ce week-end entre Odessa et Midland au Texas passe à 7 morts.
À Hong Kong, appel à la grève générale après un week-end de violence.
Échange de tirs entre Israël et le Hezbollah libanais dans un contexte de vives tensions.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Dans le nord-est de la Centrafrique, au moins 2 personnes ont été tuées dans des combats qui ont opposé dimanche 2 groupes armés signataires de l'accord de paix conclu début février avec le gouvernement. C'est ce qu'a indiqué la mission des Nations Unies en Centrafrique, Jean-Roger Bion.
Ces affrontements à Birao ont opposé des miliciens du mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice, MLCJ, à ceux du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC. Plus de 1000 déplacés se sont réfugiés aux alentours de la base de la MINUSCA. Les casques bleus ont effectué des patrouilles dans la ville. Le pays connaît une relative accalmie depuis la signature d'un accord de paix le 6 février entre 14 mouvements rebelles et le gouvernement centrafricain. Les populations sont toutefois toujours victimes de violences commises par les groupes armés qui contrôlent 70% du territoire. Le MLCJ et le FPRC, tous deux issus de l'ex-rébellion de la Séléka, s'étaient déjà affrontés le 14 juillet dans le village d'Amdafok, situé à la frontière du Soudan, à 60 km de Birao. Un affrontement provoqué par l'arraisonnement d'une cargaison d'armes appartenant au MLCJ par des éléments du FPRC qui avait causé la mort de 8 miliciens.
En République démocratique du Congo, entretien ce lundi à Kinshasa entre le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le président Félix Tshisekedi. Ils doivent discuter, entre autres sujets, de la lutte contre l'insécurité et de l'avenir des Nations Unies en RDC. Hier, M. Guterres s'est rendu dans la région de Beni, où les populations attendent désespérément des réponses face à l'épidémie d'Ebola et aux violences des groupes armés. Nathalie Barge.
Je compte sur le Conseil de sécurité pour que l'on puisse renouveler le mandat avec les ajustements nécessaires, a déclaré Antonio Guterres après avoir visité un centre de traitement d'Ebola près de Beni. Pour le patron de l'ONU, la riposte anti-Ebola passe par la lutte contre les groupes armés actifs dans la région. Notre solidarité doit s'exprimer par une coopération accrue entre la MONUSCO et les forces armées de la RDC, capables de contenir et si possible de battre la menace d'actes terroristes des ADF, a dit M. Guterres. Nous aimerions que la MONUSCO joue pleinement son rôle, a lancé samedi un porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, en annonçant une prochaine offensive contre la milice islamiste. Malgré une accalmie, Ebola reste une menace sérieuse de santé publique pour le pays et la région, a souligné M. Guterres. L'épidémie qui a touché l'Ouganda a été décrétée en juillet par l'OMS, urgence sanitaire de portée internationale. L'actuel mandat de la MONUSCO est valable jusqu'au 31 décembre. L'actuel mandat de la MONUSCO est valable jusqu'au 31 décembre. L'ONU a déjà fermé des bases et réduit ses effectifs civils en République démocratique du Congo.
Selon notre confrère Thierry Kamundi de Top Congo FM, le secrétaire général de l'ONU doit aussi s'entretenir avec des acteurs de l'opposition politique et de la société civile avant d'échanger avec le président Félix Tshisekedi.
Et puis notre confrère nous signale aussi, toujours en RDC, que 2 inspecteurs des finances ont été interpellés puis relâchés à Kinshasa. Parmi eux, l'inspecteur général Victor Batubenga, ce dernier qui accuse le conseiller spécial en matière de sécurité du président Tshisekedi de les avoir menacés, dit avoir été molesté et menacé de mort par un collaborateur de François Béya, le conseiller spécial en matière de sécurité. Ces inspecteurs enquêtent sur la gestion de 15 millions de dollars dus aux pétroliers, mais Corée réquisitionné, Vital Kamerhe, le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, et sur la gestion des finances publiques depuis l'investiture de le 24 janvier dernier, précise Thierry Kambunji.
Le verdict du procès marathon du coup d'État manqué de 2015 au Burkina Faso est attendu ce lundi. Après 19 mois d'audience, le sort de Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, deux anciens barons du régime Compaoré, étant particulièrement scruté. Les juges du tribunal militaire de Ouagadougou de ce procès hors norme devront dire si les 84 accusés, dont les généraux Diendéré et Bassolé, cerveaux présumés du putsch, sont coupables ou non et décider des peines. 14 personnes sont mortes et 270 ont été blessées lorsqu'une unité d'élite de l'armée burkinabé, le régiment de sécurité présidentielle, le RSP, a tenté le 16 septembre 2015 de renverser le gouvernement de transition.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'ouragan Dorian faisait toujours rage lundi sur les Bahamas avec des pluies torrentielles et des vents frôlant les 300 km/h. Un niveau sans équivalent dans l'histoire de cet archipel de la Caraïbe. Le cyclone poursuivait sa trajectoire incertaine vers les États-Unis, où les autorités ont ordonné l'évacuation préventive de centaines de milliers de personnes dans les régions côtières. L'ouragan de catégorie 5, qualifié de catastrophique par le Centre national des ouragans américains, a touché terre dimanche à El Boque, dans le nord-ouest des Bahamas. Après les Bahamas, l'ouragan devrait se rapprocher de la côte est de la Floride, sud-est des États-Unis donc, lundi soir et mardi, mais il est difficile de prévoir avec quelle intensité il va frapper l'État américain.
Le bilan de la dernière fusillade en date au Texas pendant laquelle un homme a tiré sur des automobilistes est passé à 7 morts et 22 blessés, dont 3 policiers, a annoncé dimanche la police. De nouveau, Jean-Roger Bion.
Cette fusillade s'est produite samedi sur plusieurs kilomètres sur la route entre Odessa et Midland. Ce chiffre aurait pu être bien plus élevé selon les forces de l'ordre si l'assaillant avait pénétré dans le cinéma d'Odessa devant lequel il a été abattu. Le tireur a utilisé une arme de type fusil d'assaut. La fusillade a débuté quand une voiture de police a tenté d'arrêter un véhicule sur l'autoroute, mais le conducteur a pointé un fusil par la fenêtre arrière de son véhicule et a tiré plusieurs coups de feu sur la patrouille. Le tireur est parvenu à prendre la fuite tout en continuant à tirer sur d'autres personnes, criblant de balles plusieurs voitures. Dans un tweet dimanche, le président Donald Trump a déploré une tragédie. Mais bien plus tard, devant des journalistes à la Maison-Blanche, il a affirmé que bien que des discussions sur le contrôle des armes à feu soient en cours avec des élus démocrates et républicains, la fusillade ne changeait rien.
Eh bien, à Hong Kong vivait lundi de nouvelles turbulences avec des appels à la grève générale et à un boycott des cours dans les universités après un week-end marqué par des violences parmi les plus graves depuis le début du mouvement de contestation il y a 3 mois.
Et l'armée israélienne et le Hezbollah ont échangé dimanche des tirs de missiles de part et d'autre de la frontière entre Israël et le Liban dans un contexte de vive tension qui fait craindre une escalade. Nous retrouvons Nathalie Barge.
Le Hezbollah a affirmé avoir détruit un véhicule militaire de l'armée israélienne dans le secteur d'Avivim. L'attaque a entraîné une riposte israélienne dans le sud du Liban. Selon Israël, des tirs de missiles anti-chars ont touché une ambulance militaire sans faire de victimes, contrairement à ce qu'avait affirmé le Hezbollah. Nous réagirons en fonction des développements, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou, assurant avoir donné l'ordre à l'armée de rester prête à tous les scénarios. Les tirs du Hezbollah étaient une riposte à une frappe israélienne ayant tué 2 membres du groupe en Syrie le 24 août. La frappe en Syrie a été menée contre un village d'où, selon l'État hébreu, le Hezbollah et son allié iranien préparaient une attaque aux drones kamikazes contre son territoire. Les États-Unis se sont dit préoccupés par l'escalade des tensions, a indiqué le département d'État.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Au Botswana, Shumba Energy a formé une joint venture avec deux sociétés chinoises pour la construction d'une centrale de conversion de charbon en liquide d'un coût de 1,5 à 2 milliards de dollars. L'usine de transformation devrait produire par jour 20 000 barils de diesel et 5 000 barils d'essence. La centrale va nécessiter 3,2 millions de tonnes de charbon par an qui proviendraient de la mine de Shumba Mabesekwa. La centrale de Maria Gleta est entrée en service au Bénin. D'une capacité de 127 MW, elle est implantée dans la localité d'Abomey-Calavi, à 10 km de Cotonou. Les travaux ont duré 18 mois et ont coûté 180 millions de dollars. Avec l'inauguration de cette centrale, la capacité électrique du Bénin passe à 448 MW. Le projet a bénéficié de l'appui de plusieurs banques régionales qui lui ont fourni des prêts remboursables sur plus de 10 ans. Pour terminer, les métaux précieux ont fortement progressé sur la semaine, notamment l'argent et le platine, tandis que l'or a atteint son plus haut niveau en 6 ans. Lundi, il est monté jusqu'à 1555,28 $ l'once, du jamais vu depuis 2013. L'argent, de son côté, a atteint jeudi 18,66 $ l'once. Le platine a gagné 6,6% depuis mardi, atteignant 935,68 $ l'once. Enfin, le palladium est monté vendredi à son plus haut niveau depuis un mois, à 1507,11 $ l'once.
Les sports à présent avec Élisée Onkpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Les rideaux sont tombés sur les 12e Jeux africains Rabat 2019.
Oui, le Maroc a dit au revoir à toute l'Afrique à travers une cérémonie riche en son et en lumière. Mais avant la tombée des rideaux, le football a désigné son vainqueur. Il s'agit du Burkina Faso. Le point avec Kader Traoré sur place à Rabat.
Ça n'est terminé pour les Jeux africains Rabat 2019. Les dernières médailles ont été disputées le vendredi et le samedi dans la matinée. Pour ce qui est du football et chez les dames, l'or est revenu au Nigeria qui a battu en finale le Mali à l'issue des tirs au but. Le Burkina n'a pas eu recours à cette épreuve pour remporter l'or. Les Stallons juniors ont battu les Super Eagles du Nigeria par 2-0. Pour Cheikh Djibril Ouattara, capitaine des Étalons et meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations, l'objectif au départ était la médaille dorée.
Ça n'a pas été facile pour nous, vu que le Nigeria aussi était venu pour remporter le trophée, mais on ne s'est pas laissé faire.
Au terme de ces 12e jeux, le grand vainqueur est l'Égypte qui a gagné 273 médailles, dont 102 en or. Le Nigeria arrive en deuxième position avec 127 médailles et l'Afrique du Sud complète le podium avec 87 médailles. Kader Traoré à Rabat pour VOA Afrique.
Basketball, Coupe du Monde en Chine, les quatre équipes africaines engagées se sont inclinées.
Le Sénégal, en clôture hier de cette deuxième journée, a été battu lourdement 47-101 par la Lituanie. Déjà la veille, les quatre autres représentants de l'Afrique ont tous été battus. Le Nigeria s'est incliné devant la Russie sur le score de 77-82, tandis que la Côte d'Ivoire a perdu contre le pays organisateur, la Chine, 55-70. L'Angola et la Tunisie se sont sévèrement inclinés devant respectivement la Serbie 59-105 et l'Espagne 62-101.
Football à présent, Molefi Seki est nommé sélectionneur de l'Afrique du Sud.
Intérimaire à la tête des Bafana Bafana depuis la démission de Stuwa Baster le 2 août dernier, Molefi Seki a été confirmé à son poste de sélectionneur par la Fédération Sud-Africaine. L'homme connaît très bien cette sélection pour avoir été l'assistant de ses deux prédécesseurs, Ephraim Mashaba et Stuwa Baster. Molefi Seki sera sur le banc le 7 septembre prochain lors du match amical contre la Zambie à Lusaka.
On reste sur le continent pour faire le point des championnats. En RDC, on a eu droit au classico.
ASV Club contre TP Mazembe. Match comptant pour la troisième journée de la Ligue 1 au stade des Martyrs à Kinshasa. Après les 90 minutes de jeu, les deux équipes se sont quittées dos à dos, score 0-0. Avec ce résultat, le club de Lumbashi garde la première place avec 7 points. De son côté, l'ASV Club qui n'avance plus. En trois journées, l'équipe entraînée par Florent Ibengue totalise 5 points.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, ce qui devait rester comme un grand hommage rendu au musicien DJ Arafat s'est terminé par une sorte de réprobation générale après que la tombe de l'artiste a été vandalisée par des jeunes qui ont aussi exhumé son corps samedi matin à Abidjan, peu après son enterrement. Il a fallu une intervention des forces de l'ordre pour que le corps soit remis dans la tombe. Un acte final qui a gâché une veillée funèbre ayant réuni des milliers de personnes dès vendredi après-midi au stade des Félix Houphouët-Boigny, nous dit de la capitale ivoirienne notre correspondant Lamine Traoré.
Vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny, la veillée artistique s'est bien déroulée. Mais samedi au cimetière de Williamsville dans Abidjan, les fans du musicien sont allés jusqu'à exhumer son corps. Les autorités se disent choquées. Le préfet d'Abidjan a annoncé hier qu'une douzaine de personnes ont été interpellées en relation avec ces événements. Le procureur de la République a été saisi et cet acte ne restera pas impuni, a rassuré le préfet.
C'est un esprit qui est au-dessus de tout ça, l'esprit des Chinois.
Réanique Tizier, un Ivoirien.
Mais c'est déshonorant pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire parce qu'au-delà de nos frontières, on voit le peuple noir qui a un mauvais comportement. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que comment on peut profaner la tombe de quelqu'un qui a été inhumé. Quelqu'un qu'on dit, on appelle comme notre idole, on l'enterre et on va le déterrer pour voir vraiment qui est dans sa tombe. Ce n'est pas honorable. On n'honore pas l'Afrique.
Amidou Sabadoko, aussi un Ivoirien, est du même avis.
Ses fans, ce qu'ils devraient chercher à voir seulement, du moment où l'artiste, la star est décédée, eux, la seule chose qu'ils devraient chercher, c'est quand on honore ses funérailles. À son nom, de la manière, il est célèbre, que ses funérailles soient célèbres ou bien soient honorées à la taille de son nom, c'est tout. Le reste là, que c'est lui, c'est pas lui, ça dépend de sa famille. Si sa famille a vu que c'est lui, c'est pas lui, et puis ils ont accepté, ils sont allés l'enterrer, ça ce n'est plus eux à leur niveau. Eux à leur niveau, c'est qu'ils devaient chercher seulement, et qu'on honore l'artiste à sa juste valeur, c'est tout.
Pour certains, c'est une situation dramatique, mais qui est une étape normale dans le vécu du deuil des individus.
C'est une étape qu'on appelle le déni, donc on refuse. On se dit que la personne qu'on aime ne peut pas mourir, parce que généralement, quand on aime quelqu'un, on se dit qu'il ne peut pas. Et ça arrive à tout le monde.
À Abidjan, cet homme d'église, un prêtre, essaie d'expliquer ces phénomènes. Il a voulu réagir sous anonymat.
Quand tu apprends le décès de quelqu'un que tu aimes, tu dis non, c'est pas vrai, dis-moi que c'est un mensonge, tu vois, c'est le déni. Et vu que les gens ont été tenus un peu loin de tout ça, certains en sont encore à cette étape-là. C'est une étape qu'on pourrait qualifier de normale, quoi, dans le processus de vécu du deuil des individus.
Le corps de DJ Arafat est donc enterré depuis samedi au cimetière de Williamsville, dans la commune populaire d'Adiamé. Sa tombe reste sous une haute surveillance des forces de sécurité ivoiriennes. Lamine Traoré, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Retour à l'école ce lundi pour les élèves de la République démocratique du Congo. La particularité de cette année est l'entrée en vigueur de la gratuité de l'enseignement de base dans les établissements publics du pays. Une mesure prévue par la Constitution, mais qui n'avait jamais été appliquée. Cette gratuité va tout de même consommer plus de la moitié du budget annuel de la RDC, mais le nouveau président, Félix Tshisekedi, qui en avait fait une promesse de campagne, veut tenir parole. Reportage de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Prévu par l'article 43 de la Constitution, la gratuité de l'enseignement de base dans les établissements publics ne s'est jamais totalement appliquée en RDC durant les deux mandats de Joseph Kabila. Le nouveau président de la République, Félix Tshisekedi, qui en a fait une promesse de campagne, a tenu à la matérialiser. Mais cette gratuité a un coût. 2,8 milliards de dollars par an, selon des experts du secteur de l'éducation. Pour Jean-Marie Mangobé, le secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, toute toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement après une table ronde à ce sujet pour couvrir ses frais.
Le chef de l'État a pris toutes les mesures qui sont en train d'être communiquées. Ils verront les effets sur les listings de paye pour que dans nos écoles, qu'on ne parle plus de frais de scolarité, qu'on ne parle plus de frais de motivation. Et je demande à tous les services techniques de l'EPSP de pouvoir suivre cette question de près pour que les enseignants qui n'auront pas procédé au remboursement au mépris de la décision de l'autorité soient sévèrement sanctionnés.
Mais comment et où trouver ces 2,8 milliards de dollars par an quand on sait que le budget national s'élève aujourd'hui à 4 milliards de dollars américains? Godefroy Mpoy est professeur d'économie à l'université de Kinshasa.
C'est vrai que pour la première année, ça sera quand même difficile parce que ce gouvernement n'a qu'un seul trimestre pour mobiliser des ressources. Tout ce que je peux conseiller à notre gouvernement, c'est d'abord d'auditer véritablement ces budgets-là qui s'élèvent à plus de 2 milliards de dollars. Souvent, dans ce genre de choses, il y a une surévaluation.
Une autre question que beaucoup de Congolais se sont posées au sujet de la gratuité de l'enseignement de base est liée à la catégorie d'école et d'élèves concernés par cette mesure. Charles Mutamuntu est le ministre de l'Éducation de la ville de Kinshasa.
La gratuité est pour l'enseignement de base, l'enseignement primaire, tel qu'elle est définie la Constitution. Au niveau également des classes des 7e et 8e, la gratuité concerne les écoles publiques, pas les écoles privées.
Les parents, justement, à qui il a été demandé d'aller retirer, pour ceux qui les avaient déjà percés, les frais scolaires de leurs enfants. Écoutez cette dame que nous avons croisée dans une école de la capitale.
Il y a le directeur qui m'avait appelé pour venir prendre l'argent parce que le gouvernement a lancé une communication que les frais scolaires sont gratuits. J'avais payé la compte de 130 dollars et maintenant là je viens de percevoir les 130 dollars que j'avais payé.
Par contre, pour d'autres comme ce papa, cela a été plus compliqué. Il recommande d'ailleurs à l'État de laisser les parents payer les frais cette année et lancer la gratuité l'année prochaine.
Si l'État ne paye pas en ce moment où la rentrée doit avoir lieu, vous voyez que les enseignants vont aller en grève. Ça va nous pénaliser. Le gouvernement devait bien réfléchir, peut-être laisser passer cette année, préparer, budgétiser et verser effectivement ce qu'il doit verser au niveau des écoles. Parce que les écoles, dès le début, ont besoin de beaucoup d'argent pour le fonctionnement.
Kinshasa, Thierry Kambouni de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retrouvez VOA Afrique sur Top Congo sur 88.4 FM à Kinshasa.
Au Togo, une vingtaine d'enfants ont été sensibilisés sur la pollution du plastique et la nécessité d'avoir recours au recyclage pour mieux protéger l'environnement. C'était dans le cadre de la première édition de Colonie Verte qui s'est tenue à Lomé. Une manière d'occuper les enfants pendant les vacances et aussi de leur inculquer des valeurs qu'ils pourront partager avec leurs camarades dès la rentrée scolaire. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
La pollution du plastique, les menaces sur l'environnement et le recyclage, ce sont là les sujets abordés lors de la première édition de la Colonie Verte. Une journée d'échange au cours de laquelle les enfants ont pu retenir l'essentiel.
On a appris que chaque année, il y a 8 millions de tonnes de plastique qui tombent dans la mer et que ça pollue la nature et que des scientifiques ont estimé que d'ici 2050, il y aura plus de déchets dans la mer que de poissons.
On a appris qu'il ne faut pas jeter les plastiques dans la nature. Je vais faire une campagne pour dire à tout le monde de ne pas jeter les ordures par terre. Et puis, avec le scout à l'école, on va faire des poubelles pour mettre dans la rue.
Âgés de 4 à 12 ans, les participants à cette colonie verte constituent une cible privilégiée pour une meilleure protection de l'environnement. Christelle Selom, initiatrice de la colonie verte.
On a voulu faire une classe verte parce qu'on s'est dit qu'il fallait associer les enfants à l'écologie. Donc on voulait vraiment aller vers ces enfants pour leur dire tous les sachets que vous avez dans votre environnement, ne les jetez plus dans la rue, essayez de les jeter à la poubelle, essayez d'en parler autour de vous, à l'école, à vos parents, pour sensibiliser toute la société togolaise. Et de plus, ce sont les adultes de demain. Donc c'est important de les former dès tout petit à l'écologie et les sensibiliser aux méfaits et aux dangers du plastique.
C'est le but recherché également par Aristide Messin, dont les enfants ont participé à cette colonie verte.
Faire l'éducation depuis la base, c'est très important, et ce qui va nous permettre surtout de faire tout changer. C'est une opportunité pour les enfants de participer à quelque chose qui va édifier leur conscience, surtout qu'en ce moment, il y a l'Amazonie qui est en train de partir en fumée. Je pense que c'est l'une des raisons qui m'a le plus motivé à venir avec les enfants.
Isis Noryaladi, qui a entretenu les enfants sur la pollution du plastique et le recyclage, estime qu'il est temps que l'écologie rentre dans les mœurs africaines.
Il est important aujourd'hui que, à l'école, on commence à parler du plastique aux enfants. On va parler de la déforestation, on va parler d'une agriculture saine. Tout ça, c'est de l'écologie. Et il est important que nos enfants, qui vont porter l'humanité de demain, que cette éducation rentre dans leurs mœurs, comme apprendre, lire et compter. Alors, si nous ne menons pas cette démarche pour que les habitudes changent au niveau de nos enfants, ils disparaîtront.
Au cours de cette colonie verte, les enfants ont pu produire de différents objets à partir de bouteilles et couverts en plastique. Kailasson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Niger, la montée des eaux du fleuve du même nom en cette période pluvieuse risque de causer des inondations à Niamey, la capitale, et les autorités ont demandé aux populations riveraines de quitter les lieux. Le point avec notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
L'alerte a été donnée en milieu de semaine par le gouverneur de la région de Niamey. Le niveau des eaux du fleuve augmente dangereusement depuis quelques jours. Issaka Hassan, 40 ans.
Le phénomène auquel nous assistons aujourd'hui relève de deux situations. D'abord, l'abondance des pluies au Burkina Faso, qui a fait que la Sirba et le Gouroua ont drainé suffisamment d'eau qui sont venues se jeter justement dans le fleuve. Ça, c'est ce que nous appelons la crue des eaux rouges. Et de l'autre côté, nous avons été informés depuis deux semaines que le barrage de Sélengué au Mali a cédé, ce qui risque d'aggraver la cote, qui est de 618 cm. Or, en 2012, c'est avec cette cote de 618 cm qu'il y a eu l'inondation.
Face à la montée progressive des eaux, le ministre de l'Action humanitaire s'est rendu auprès des populations riveraines du fleuve samedi matin, Lawan Magaji.
Dans plus de 50 ans depuis, avant l'indépendance, on n'a pas enregistré une cote de 630. Nos équipes sont prêtes, ils ont mobilisé les moyens de loger à peu près 1500 personnes. C'est vraiment un appel que je lance à la population du Niamey d'être vigilante et surtout d'éviter vraiment de rester dans l'eau dans la nuit.
Les autorités insistent pour que les populations quittent volontairement ces endroits inondables, sinon elles envisagent de les évacuer par force si la situation ne s'améliore pas. Issaka Hassan Karanta, gouverneur de la région de Niamey.
Chacun soit sur ses gardes. Si la situation évolue au-delà des 618 cm, eh bien, sans attendre l'inondation, nous allons commencer par évacuer les gens.
Déjà, plusieurs régions du pays ont connu des inondations. À Agadez, par exemple, deux personnes sont décédées et plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Sadou Saloké, gouverneur de la région d'Agadez.
Nous avons 2558 ménages sinistrés, ce qui totalise pour nous 17 384 personnes en charge. Nous avons enregistré 705 sans-abri. Nous avons également perdu plusieurs centaines d'exploitations agricoles, totalement ou partiellement détruites. Nous avons enregistré plusieurs centaines de têtes de bétail perdues. Nous avons eu plusieurs coupures de nos voies de communication. C'est le cas de la RTA qui a été coupée au moins à trois endroits.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console d'Harold Smith. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.